Bonsoir à tout le monde. Oui, je suis de retour ici sur CFA 88.3. Bienvenue de retour sur ma radio Academia avec moi, Bromar Aman. Je viens de revenir de Vancouver. J'ai eu une fin de semaine exceptionnelle. Les émissions sortiront aux horaires réguliers pendant les semaines subséquentes. Mais aujourd'hui, j'ai un invité que j'apprécie beaucoup avec moi ce soir. Qui ici, dans le public, se rappelle de Naruto? Ben oui, Naruto, animé légendaire, on a tous grandi avec, que vous ayez mon âge, moi j'ai 24 ans, ou que vous soyez un peu plus vieux, un peu plus jeune, vous avez connu Naruto sous une forme ou sous une autre. Et moi, quand j'étais au secondaire, j'ai suivi toute la série de Naruto, Shippuden jusqu'à la fin. Vous vous rappelez sûrement de tous les fillers qui étaient absolument chiants, j'en suis sûr. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de fillers, certainement pas. On parlera des grandes guerres shinobi, notamment de la quatrième, avec mon invité, Dorian Haydar. Bonsoir.
Bonsoir, merci vraiment de m'inviter. C'est un honneur d'être ici. Effectivement, Naruto a bercé nos enfances. C'est un animé d'anthologie, c'est un animé légendaire. Et je suis ravi de pouvoir en discuter avec toi ici et de pouvoir en faire part aussi avec les auditeurs, et notamment de la quatrième grande guerre. L'idée est de pouvoir faire avec la quatrième grande guerre des comparaisons avec le droit international. Et de potentiellement essayer de voir ce qui a marché aussi dans l'animé Naruto, dans la représentation du droit international, ce qui n'a pas marché. Donc essayer de voir des limites dans cet animé. Donc c'est vraiment un plaisir d'être ici. Et moi, je voudrais commencer par les prémices de Naruto. Donc si tu veux dire un mot.
Ah, parler de Naruto, bah, évidemment, Naruto, donc, l'histoire se passe à Konoha. Ouais. Qui est le village des ninjas. Et Naruto, qui est notre personnage principal, est visiblement pas très apprécié des villageois au début de l'histoire. Et la raison, et on la découvre progressivement, est que il y a un Jinchuriki. Donc, il, à l'intérieur de lui, le réside le renard à neuf queues, un des sortes de démons dans l'histoire, que ses parents ont donc scellé à l'intérieur de lui. Et donc, l'histoire suit Naruto, évidemment, l'équipe numéro 7, lorsque Naruto décide d'entamer sa carrière de ninja, sensei Kakashi, qui est un ninja très expérimenté, qui a déjà servi dans les forces spéciales de Konoha, Sasuke, qui est, disons, une sorte de edgelord dès le début de l'histoire, qui a une histoire particulière, très lourde à porter derrière son dos, parce que au début de l'histoire, on est mis dans le contexte que son frère Itachi avait trahi son clan des Uchiha en assassinant le clan en entier. Mais éventuellement, on verra dans l'histoire que c'est pas tout à fait ça. Et finalement, Sakura, que Naruto est amoureux d'eux, et depuis le début de l'histoire. Dont les fans ont des opinions mitigées pour toutes sortes de raisons. Et éventuellement qui deviendra une des médecins de Konoha. Dorian, pour la prémisse, je crois que ça fait l'affaire. Tu peux continuer à partir de là.
Oui, il n'y a aucun problème, je te remercie. C'est vraiment important ce que tu dis par rapport au démon qui est enfermé dans Naruto, qui est scellé en lui, parce que c'est un peu la cause de la déclaration de guerre de Tobi. Alors, bon, pour ceux qui ont regardé Naruto, on sait qui est Tobi, mais au début de la quatrième grande guerre, c'est Tobi, et ce n'est pas un autre nom. Et en fait, on voit bien que cette déclaration de guerre, c'est d'une certaine manière par voie orale. C'est différent de ce qui se fait en droit international habituellement par une déclaration écrite. Mais ça se fait par des faits concrets. Et dans Naruto, on voit que Tobi n'a pas les démons qu'il souhaite. Donc, parce qu'il avait, si vous voulez, demandé à tous les villages dans Naruto, Shippuden, à tous les villages de lui fournir les bijoux. Alors les bijoux, ce sont les démons à queue. Et il y a 9 démons à queue. Le 9e étant enfermé dans Naruto. Et donc, les Kage, qui sont les dirigeants de chaque village, des villages plutôt les plus puissants, ont refusé de livrer ces démons à queue à Toby parce que c'était une source trop importante de chakra et cela allait faire lui réaliser son rêve qui était de mettre en avant un projet, c'est-à-dire un état de paix perpétuel, un peu comme ce dont Kant parlait, un état de paix perpétuel, mais si vous voulez, vidé de sa substance, vidé de toute humanité, puisque les humains, ou plutôt les ninjas, ne seraient plus maîtres de leur libre arbitre, mais seraient sous l'emprise d'un œil, d'une lune, qui leur mettrait dans un état de rêve. Et donc ce ne serait plus une sorte de réalité consciente vécue intérieurement ou vécue extérieurement, mais plutôt une réalité inconsciente vécue intérieurement. Et donc face à cette déclaration de guerre, que font les plus grands villages, les plus puissants villages ? Eh bien, ils s'unissent. Ils décident de faire un conseil. Alors là, il ne faut pas prétendre que l'alliance des shinobi est une alliance toute belle, toute rose, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, les Kage ne s'entendent pas forcément entre eux, tous, ou alors ne s'entendent pas tous entre eux. Les Kage sont un peu méfiants par rapport aux précédentes guerres qui se sont succédées. Donc il y a eu la première, la deuxième et la troisième guerre, si l'on peut assimiler ça à des guerres mondiales, puisque cela impliquait plusieurs villages, mais aussi plusieurs villes à l'intérieur du monde de Naruto. Il y a même une carte que vous pouvez consulter sur Internet pour essayer de comprendre un peu la géopolitique et même la géographie du monde de Naruto. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que dès la réunion de ce conseil, qui est un peu un conseil de sécurité type ONU, où on voit les cinq grands Kage, c'est-à-dire les Kage de chaque grand village, donc Konoha, Kumo, Iwa et Kiri, j'espère que j'en oublie pas, on voit qu'il y a une certaine méfiance, surtout le Rai Kage qui veut prendre d'une certaine manière une position de force, qui veut être le leader de ce conseil de sécurité et qui ne veut pas non plus mettre en danger son village. Donc on voit bien que face à l'alliance des shinobi, il y a quand même une volonté de protectionnisme pour chaque village, un peu à la manière des chefs d'État qui voudraient, si vous voulez, revendiquer l'intérêt supérieur de la nation. C'est un peu l'idée, et c'est ce qu'on peut très bien voir avec Trump aujourd'hui et la réaffirmation de la doctrine Monroe. Alors, sur le plan des enjeux, ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'on a donc des défis dans la coopération de la 4e Grande Guerre. Des défis puisque c'est un enjeu de taille. Chaque démon sont menacés, mais plus encore, ce sont les hôtes de ces démons. C'est-à-dire que les hôtes de ces démons sont dans des villages, appartiennent à des villages, et donc toucher à un hôte des démons qui sont généralement des ninjas de très haute qualité et d'une très grande importance, ce sont, on peut le dire, des armes de destruction massive, on a un sentiment de sécurité qui est beaucoup plus accru que si ça avait été un shinobi, si vous voulez en japonais un ninja, lambda, donc un ninja qui serait dépourvu de chakra, du chakra du démon en question. Face à cette... si vous voulez, à ce défi de coopération, à ce défi de méfiance, il y a aussi le défi de l'ordre. Non seulement le défi de l'ordre, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec le conseil des Kage, mais aussi le défi de l'ordre mondial, de l'ordre mondial de Naruto, qui est menacé parce que un nouveau ninja qui n'est pas, si vous avez suivi l'arc précédent, Pain, mais qui est un autre ninja qui a réuni Pain, justement, qui a d'une certaine manière contribué à ce que, si vous voulez, l'Akatsuki soit un peu les mercenaires de ce monde ou un peu les méchants du monde de Naruto pour revendiquer un autre ordre mondial, non plus basé sur le modèle de la gouvernance des Kage ou des gouvernements des Kage, mais plutôt sur un modèle un peu plus anarchique, un peu plus libre, un modèle où régnerait plutôt la paix, mais par la force.
C'est ça. Moi, je suis curieux de savoir ce que tu en penses de ça, parce que l'Akatsuki, c'est justement une organisation particulière. C'est une sorte de société secrète slash organisation terroriste dans l'univers de Naruto. D'habitude, quand on parle de droit international, de guerre mondiale, dans un contexte classique, notamment si on pense le contexte de l'État-nation post-congrès de Vienne dans notre réalité, on pense à une guerre entre des États souverains. Quel est le rôle de justement Akatsuki en tant que société secrète, ainsi que Tobi d'ailleurs, que lui-même n'est pas membre d'un État-nation, ne représente pas un État-nation, et l'Akatsuki non plus d'ailleurs, qui réunit des ninjas puissants de plusieurs autres États-nations ensemble dans cette société.
Alors, je te remercie, c'est une bonne question. L'Akatsuki, c'est un peu une ONG qui a de l'argent, ou une ONG qui a de la puissance. C'est-à-dire que oui, elle est secrète, oui, elle a des moyens, et surtout en hommes, mais c'est un peu, tu l'as dit, c'est cette organisation terroriste qui essaie de véhiculer un idéal, mais même à la vision ou à la lecture du manga, on ne sait pas trop ce que c'est, parce que c'est un peu caché derrière des ambitions plus grandes. Et ça, c'est ce que l'auteur a voulu, je pense, essayer de mettre en avant, au profit de d'abord Pain et ensuite le projet le projet Œil de Lune. Ce que je pense par rapport au projet de l'Akatsuki, le fait qu'il y ait des conflits avec les États dans Naruto, c'est que vraiment, oui, l'Akatsuki est là pour chambouler l'ordre international, chambouler un peu l'ordre des Kage, et éviter aussi qu'il y ait, une seule et même puissance, un monde unipolaire. C'est l'idée de rééquilibrer les forces. C'est un peu ça. Donc voilà pour ce qui concerne un peu le projet de l'Akatsuki, qui dérive ensuite au projet Pain puis Œil de Lune. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que c'est les moyens de la guerre. Dans les moyens de la guerre, on voit bien qu'au moment où l'alliance se crée et au moment où la guerre commence à peu s'installer. Bon, il y a des difficultés de coopération, des difficultés d'aménagement, puisqu'il faut réunir tous les ninjas. Tous les ninjas doivent être au courant, et puis ensuite, ils se réunissent pour combattre. Eh bien, avec Tobi, on a un allié dont on ne s'attendait pas du tout au moment du manga, c'était Kabuto. Et au moment où Tobi déclare la guerre, et il sait qu'il va y avoir combat, il rejoint Kabuto, et Kabuto va, avec Tobi, invoquer une technique interdite. C'est l'une des techniques les plus interdites, je pense, dans le monde de Naruto, qui est l'Edo Tensei. Et l'Edo Tensei, c'est une technique ninja qui consiste à réinvoquer les morts, mais avec un choix défini. C'est-à-dire qu'on réinvoque des morts, mais qui sont de puissants ninjas, et qui n'ont pas une conscience tout à fait, propre, dans le sens où ils obéissent à leur invocateur. Et donc, au moment où Tobi et Kabuto invoquent l'Edo Tensei pour ressusciter à leurs ordres les anciens Kage, qui avaient fait déjà des grandes guerres, et des anciens Kage qu'admiraient les Kage qui constituent le conseil de la quatrième grande guerre, on voit bien que là il va y avoir des difficultés à combattre, ne serait-ce que déjà sur le plan de l'arme, qui est en soi une arme quasi nucléaire, parce que ce sont des puissants ninjas, mais aussi sur le plan des sentiments, c'est-à-dire que tous les moyens sont bons pour faire la guerre à ce niveau-là, et donc il n'y a pas véritablement d'entente de ce qu'est une bonne guerre, il n'y a pas vraiment de loi à part la violation de la loi naturelle, qui est ici la profanation d'un mort, c'est-à-dire le faire rappeler pour qu'il combatte au nom d'une cause qui n'est pas bonne, au nom d'une cause qui n'est pas juste, au nom, si vous voulez, d'abord de la haine pour la paix, ou la paix par la force. C'est un peu l'idée. Donc Edo Tensei, arme redoutable, qui avait déjà été utilisée par Orochimaru, mais arme à proscrire. Sauf que là, ici, c'est une arme qui doit être canalisée par l'Alliance Shinobi, une arme qui est difficile à appréhender, puisque par exemple, un des anciens ninjas de Konoha qui était mort en combattant l'Akatsuki, notamment Hidan, qui est Azuma, un des maîtres, et le fils donc Hiruzen, le fils du troisième Hokage de Konoha, ressuscite. Lorsque Azuma ressuscite, on voit bien que sur le plan des sentiments, son ancienne équipe d'élèves ont du mal à le combattre. Et même Azuma ne peut pas résister au fait de combattre, puisqu'il est sous l'emprise de l'Edo Tensei. Donc, Edo Tensei, arme redoutable et une technique de guerre qui n'a pas de loi, visiblement. Ensuite, sur le plan du bilan, sur le plan des combats, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que cette quatrième grande guerre fait autant de morts, si ce n'est plus, que de blessés, que la troisième, à l'époque de Minato, le père de Naruto, qui était là ici le quatrième Hokage, fait autant de morts aussi que la deuxième guerre ninja. Donc, sur le plan des pertes, c'est véritablement atroce. Sur le plan du projet, c'est véritablement atroce. Donc, on se rend compte que là, on est passé dans une autre dimension. Et on voit aussi de plus en plus une équipe de ninjas, des équipes de ninjas, pardon, qui se créent pour prendre en charge les blessés. Et c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Bromor, par rapport à Sakura. Sakura, qui a reçu son enseignement de Tsunade, qui est la cinquième Hokage, petite fille de Hashirama, le premier Hokage. Eh bien, c'est cette équipe-là qui va soigner les blessés de guerre, mais avec peine, puisque au moment où, au tout début de la quatrième grande guerre, on voit Madara arriver, les pertes sont considérables. Et on se souvient tous de cette scène qui est assez impressionnante. Et j'en rigole parce que c'est tellement jouissif de voir Madara au-dessus d'un rocher en train de se dire qu'ils sont incorrigibles. Et il descend et là, il commence avec un taijutsu. C'est-à-dire qu'il n'est même pas en train d'utiliser son Sharingan, si ce n'est que pour anticiper les mouvements, et on connaît tous la suite. Donc après, bon, on sait qu'il va utiliser le katon, etc., toutes sortes de techniques avec son Sharingan. Mais c'est là où on voit que les pertes sont considérables, puisque les ninjas sont considérables. Madara fait partie du projet Œil de Lune, donc il est d'une certaine manière associé à Tobi. Et même si, en réalité, on voit bien que Tobi a du mal à faire perpétrer le projet, c'est plutôt Madara qui tire les ficelles derrière. Puis on se rendra compte que Tobi n'était pas en réalité Tobi, mais que c'était plutôt Obito qui avait mal compris en fait le projet de paix de Konoha, et qui avait mal compris aussi le fait que Kakashi puisse tuer son amour de jeunesse, Rin. Donc c'est là où on voit que les guerres a aussi ses avantages sur le plan du développement technique, sur le plan de, si vous voulez, en tout cas pour Naruto, de ressusciter les morts, et donc de revoir certaines personnes que l'on n'avait pas revues depuis longtemps. Mais à quel prix ? J'ai envie de dire à quel prix ? La guerre se passe, on découvre que Tobi et Obito, les démons résistent. Il y a le projet de Madara de créer ce que l'on appelle le bijou suprême, c'est-à-dire le démon à 10 queues, donc qui réunit tous les démons par absorption, et donc qui permet d'en transformer un autre. Il avait réussi son coup, et c'était Naruto avec Kurama qui est le démon à 9 queues, qu'on surnomme Kyubi, parce qu'il a 9 queues. Et donc c'est là où on voit que Naruto développe sa pleine puissance, il est en parfaite symbiose, et ce sont les mots de Kurama, avec Naruto. Et une des scènes qui est tellement mythique, c'est que quand Naruto prend la forme du chakra de Kyubi, il est un peu avec sa cape de quatrième Hokage à l'effigie de son père, à tel point que Kakashi, au moment où il combattait les démons, Kakashi et Gai-sensei pensaient que c'était le quatrième Hokage, alors qu'en réalité c'était bel et bien Naruto, le quatrième Hokage étant mort, même s'il avait été ressuscité par les Dōtensei. La quatrième grande guerre suit son cours. Madara développe aussi sa pleine puissance, il devient quasiment un Otsutsuki, il développe le Rinnegan, comme l'avait fait Nagato pour Pain. Mais ça ne suffit pas, puisque au final, Sasuke ayant aussi développé le Rinnegan et s'associant avec Naruto, ils arrivent à avoir raison de Madara, et Madara se fait surtout absorber par Kaguya Otsutsuki, qui était en réalité derrière les ficelles avec le Zetsu blanc. Bon, je résume un peu, mais c'est pour finir sur la quatrième grande guerre. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la quatrième grande guerre se finit par, d'une certaine manière, une redéfinition de l'ordre, de l'ordre mondial. Parce que, au moment où Naruto et Sasuke scellent Kaguya, ils ne l'ont pas tué parce qu'ils ne le pouvaient pas, mais ils l'ont scellé parce qu'ils avaient les pouvoirs à la fois du Rinnegan, mais aussi les pouvoirs donc, du maître ninja par excellence, du légendaire ninja Hagoromo Otsutsuki. Donc, ils scellent Kaguya et ils redéfinissent un nouvel ordre mondial avec les autres Kage. Donc c'est, si vous voulez, d'une certaine manière la relève, et cela avait posé de nombreuses questions de savoir quand Naruto allait être Hokage, qu'est-ce qu'il allait faire. Et donc on se rend compte qu'à la fin de la 4ème grande guerre mondiale, Naruto essaie de rétablir un état de paix qui existait précédemment à la 4ème grande guerre, et même avec une coopération de plus en plus renforcée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus forcément cet état de méfiance, puisque la 4ème grande guerre a connu des faits tellement virulents, tellement importants, à tel point d'avoir une extinction de l'humanité, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plus de comptes à s'unir qu'à user du droit de la force. Donc, d'une certaine manière, il y avait une légitime défense pour les shinobi de faire alliance, une légitime défense que l'on retrouve dans le droit pénal international, pour faire alliance contre le projet œil de lune et essayer de voir si justement la paix est toujours possible. Sauf qu'avec Boruto, on va se rendre compte que ce n'est que de passage, et Sasuke prendra un rôle beaucoup plus secondaire, ce sera un peu comme son frère, le Kage de l'ombre.
Tout de suite après la pause, on entendra la suite de Dorian, et j'ai quelques questions pour lui tout de suite. Bon, de retour de la pause, nous sommes toujours avec Dorian Edar qui vient de nous faire un excellent résumé, un résumé digne d'un doctorant qu'il est, de la 4ème grande guerre shinobi de Naruto. Et j'ai quelques questions pour Dorian, en commençant par justement, qu'est-ce qui distingue la 4ème grande guerre shinobi des trois premières ? Parce qu'en 4ème, ça sous-entend qu'il y a eu trois autres guerres. Donc, dans vos recherches, qu'est-ce que vous avez trouvé qui distingue cette 4ème grande guerre ?
La question est vaste, mais c'est le projet, déjà le projet de la guerre. Parce que quand on fait la guerre, on a derrière un projet. Alors la première, elle a été marquée par la confrontation entre, ben, si vous voulez, les clans, le clan Uchiwa et le clan d'Hashirama, les Senju. Et ensuite, il y a eu bien sûr les Uchiwa et les Senju qui ont fait appel à d'autres villages pour s'entendre et pour faire des alliances belliqueuses pour permettre à la fois de financer la guerre et d'avancer aussi sur le plan du projet de paix. Mais elle a été, si vous voulez, la confrontation d'un homme à un homme, parce que c'était les deux ninjas les plus puissants à ce moment-là de l'ordre mondial, que, si vous voulez, une implication pure de tout l'ordre ninja. Et puis, en soi, l'ordre ninja n'a pas été tellement constitué, parce que c'était vraiment plus des clans que la création de villages. Et ensuite vient la création de Konoha, et puis, par effet systémique, il y a eu la création de plusieurs autres grands villages, Kiri, Kumo et Iwa, par exemple. Ensuite, sur la deuxième grande guerre, ben, la deuxième grande guerre est marquée par l'ère Tobirama. L'ère Tobirama, où on voit ensuite beaucoup plus d'implications des autres Kage, puisqu'ils voulaient une redéfinition non seulement des frontières, mais aussi un partage plus équilibré du pouvoir. Parce que le pouvoir était un peu centralisé à Konoha. Konoha, si on voit bien la carte dans Naruto, c'est le territoire le plus grand. Et donc, par extension, le plus puissant. Et donc, Tobirama a dû, d'une certaine manière, faire face à ces nouveaux Kage. Alors, je ne sais pas, et on n'a pas de précision sur ça, on ne sait pas si ces Kage se sont autoproclamés, mais en tout cas, on voit bien que, d'une certaine manière, il y a eu conflit, puisqu'il y a eu volonté d'avoir une indépendance étatique et une volonté d'avoir une force d'égal à égal, notamment sur le plan des ressources et sur le plan de la diplomatie. Ensuite, la troisième grande guerre, là, c'est plus une affaire de démons. La troisième grande guerre, c'est un peu les contre-coups de la deuxième. Parce que au moment de la troisième, Hiruzen, à Konoha, est nommé Kage. Et au moment où il est nommé Kage, Hiruzen, pardon, était nommé Kage à la fin de la deuxième guerre ninja. Mais au moment où, par contre, la troisième guerre apparaît, Hiruzen prend la responsabilité de la deuxième guerre. Donc, j'espère que c'est un peu clair pour tout le monde, je me suis repris sur ça. Hiruzen prend la responsabilité de la deuxième guerre et il décide donc de démissionner. Parce qu'il veut, lui, avoir ce projet de paix qu'avait initié Hashirama, déjà avec le clan Uchiwa. Mais le problème, c'est que Hiruzen avait aussi fait le choix pour son successeur de Minato. Mais Minato était en concurrence avec le chef du clan Uchiwa, qui s'occupait de la police à Konoha, donc, et qui était le père de Sasuke et de Itachi. Et il était aussi en concurrence avec Orochimaru. Orochimaru, qui était l'élève de Hiruzen, Sarutobi Hiruzen. Le problème, c'est qu'ici, il y a eu un enjeu déjà de politique interne à Konoha et un enjeu géopolitique externe, dans le sens où les démons se sont développés dans des hôtes qui ont déjà été prédestinés à la fin de la deuxième guerre de ninja. Et donc, on voit bien qu'à ce moment-là, c'est un peu l'escalade. Va-t-on user de nos hôtes pour faire la guerre ? Et au moment où il y a eu ce conflit interne pour nommer le successeur d'Hiruzen, il y a eu un déchaînement à Konoha, le démon a été libéré. On a souvent prétexté que c'était Madara qui avait libéré le démon, mais en réalité Madara, on sait qu'il n'était pas mort, mais il était dans un autre projet qu'on en a expliqué tout à l'heure avec la 4e Grande Guerre. Mais Madara n'est plus dans l'équation, on considère qu'ici il est mort. Mais en réalité, donc, ce démon a été libéré et il a ravagé Konoha. Et donc, le sauvetage de Minato lui a permis de devenir Kage. Et juste avant même que Kyuubi ravage Konoha, il avait été nommé Kage par le Daimyo. Et c'est là où on a une différence avec la 4e Grande Guerre, précisément sur la 3e, c'est que le Daimyo est intervenu dans la politique interne, ce qui a rebattu un peu les cartes sur le plan de la puissance à l'international, parce que les Daimyo, sur le plan de la 4e Grande Guerre, n'interviennent absolument pas. Je n'ai pas cité tout à l'heure de Daimyo dans le fameux conseil de sécurité type Naruto. Donc, on voit bien qu'il y a une différence et que les Daimyo, autrefois, étaient aussi beaucoup plus puissants qu'au moment où l'enjeu de la perte de l'humanité, au moment de la 4e Grande Guerre.
Une autre question que j'ai aussi par rapport à ça, c'est que le rôle de Itachi, parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens, c'est une confusion qu'on pourrait clarifier. Bon, ça a été clarifié, je suis sûr, par des internautes et ici et là, mais je trouve que c'est important parce qu'il y a beaucoup de, même aujourd'hui, des gens qui ont regardé Naruto qui ont une mauvaise compréhension et une mauvaise lecture de ce que Itachi a fait, de qui il est. Parce que, évidemment, il a toujours été tagué de traître. Il a trahi Konoha, il a trahi son clan, et il a tué tout le clan Uchiha. Ultimement, un traître, c'est quelqu'un qui fait quelque chose pour un gain personnel. Mais on réalise, à travers l'histoire, que Uchiha, il a toute sa vie, il a depuis qu'il a tué tout le clan Uchiha, a accepté de porter le nom de traître, de vivre comme un traître, de mourir un traître aux mains de son frère. Mais il n'était pas du tout un traître.
C'est là où le profil d'Itachi, tellement bien écrit par l'auteur de Naruto, est assez particulier et problématique, enfin plutôt controversé, je dirais. C'est vrai que Itachi, on ne peut pas le taguer directement de traître, à part quand on le voit au début dans l'Akatsuki, mais au moment où on commence à comprendre son histoire. Et c'est là que le profil d'Itachi est aussi intéressant, parce qu'en droit international, il y a aussi ces cas-là de déserteurs. Qu'est-ce qu'on fait des déserteurs? Qu'est-ce qu'on fait du droit des déserteurs? La question, même en droit international, est très complexe. Généralement, les déserteurs ont aussi des droits, puisque ce sont des personnes humaines, et ils sont catégorisés. Par contre, est-ce qu'ils sont catégorisés sur le plan juridique comme ayant des droits normaux? En réalité, oui, peut-être pour l'asile. Mais où Itachi a trouvé l'asile? Dans une organisation un peu terroriste. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, on peut vraiment parler de déserteur? Je pense que la comparaison est quand même assez faible, mais ça le mérite au moins d'introduire une réflexion. Mais Itachi, non, en soi, sur le plan moral, alors, c'est très compliqué, mais sur le plan moral, on ne peut pas dire exactement que c'est un traître. On peut dire qu'il a fait de mauvaises actions, parce qu'il a été l'arme qui a tué quand même. Il a été cette personne qui a tué sa famille, qui a tué le clan des Uchiwa. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, les Uchiwa allaient rentrer en conflit directement avec Konoha, en guerre civile, et qu'ils allaient renverser. Donc clairement, on était dans un coup d'État, et qui potentiellement allait renverser l'ordre mondial, puisque une fois que les Uchiwa auraient pris le pouvoir, ce qui allait se passer, c'est qu'ils allaient, sur le plan international, d'une certaine manière, dicter leur loi. Donc Itachi a fait plutôt le choix de la paix, c'est ce que dit surtout Hiruzen, qui le remercie et qui lui a donné ce statut de paria, de déserteur, et même il a inscrit son nom dans le Bingo Book. C'est le fameux carnet où les ninjas les plus dangereux sont répertoriés, donc déjà tout l'Akatsuki y passe, ça c'est certain. Clairement, Itachi a un rôle difficile, mais à la connaissance d'histoire, personnellement, je ne le qualifierais pas de traître, mais je le qualifierais de personne qui doit purger quand même une peine.
Et une dernière question qui touche directement votre expertise en droit international. Donc, votre recherche porte justement sur le droit international du sport, donc qui concerne notamment les règles antidopage des athlètes. C'est pas une question antidopage, ne vous en faites pas, mais c'est une question concernant le système de classification des ninjas. Donc, il n'y a pas de droit international en tant que tel dans Naruto, sauf qu'il y a un système universel de classification des ninjas, donc la Genin, Chunin, Jonin et ultimement Kage. Expliquez un peu comment ce système fonctionne, ce système universel fonctionne à la lumière d'un monde où clairement il n'y a pas de système de droit international et où les Kage en général ne s'entendent pas très bien, comme vous l'avez expliqué.
Alors déjà, il y a aussi une imprécision dans Naruto, c'est de savoir si... alors, ils ont tous le même système, mais est-ce qu'ils l'appliquent aux mêmes années? Est-ce qu'ils l'appliquent pour tous les ninjas, etc.? Ça, c'est une question difficile. On a plus d'infos sur Konoha, par contre, sur ce plan-là, dans le sens où Konoha, on sait que les Chunin, pour être Chunin, déjà, il faut passer un examen, et c'est tous les deux ans. Mais ce qui est marrant, c'est que... alors, il y a plusieurs internautes qui ont... ou plusieurs lecteurs de Naruto qui ont réagi sur ce plan-là, qui ont révélé la plus grande incohérence de Naruto, et c'est vraiment la plus grande, et c'est en rapport avec la 4e Grande Guerre. C'est que dans la 4e Grande Guerre, on a environ... Généralement, les Kage, quand ils se sont réunis, ils ont essayé de tabler à 30 000 ninjas. 30 000 ninjas, ce qui fait que, vu l'examen des Chunin, vu l'examen aussi des Shonin, pour essayer de gravir les étapes, c'est les échelons hiérarchiques, c'est quand même très très dur. C'est très militarisé, et on se rend compte que même 400 ans ne suffiraient pas pour réunir 30 000 ninjas. Même si on réunit tous les ninjas de tous les pays, ça ne suffirait pas pour pouvoir aller avec 30 000 ninjas à la 4e Grande Guerre. Donc la réunion est impossible. parce que c'est extrêmement difficile. Ensuite, oui, sur le plan hiérarchique, il y a un ordre à respecter, mais on voit bien qu'il y a des cas exceptionnels qui font que cet ordre-là est un peu balayé. Je ne sais pas si je réponds à la question quand même, mais je vais sur ce terrain-là parce que c'est important qu'on n'est pas obligé d'être shonin pour arriver kage. Vous savez à quel exemple je fais référence. C'est peut-être c'est le personnage principal du manga. Donc, on n'a pas besoin d'arriver à ce niveau-là, enfin, d'être jonin pour être kage. C'est un peu ça. Par contre, Kakashi a été jonin, force spéciale, etc. Itachi a été jonin, puis force spéciale à l'âge de 13 ans. Donc, imaginez un peu le gabarit du gars. Mais non, c'est vrai qu'il y a un système hiérarchique dans Naruto qui est assez développé, assez simpliste aussi, mais développé dans le sens où c'est très dur de gravir les échelons, parce qu'il faut le mériter, sauf fait exceptionnel, vous sauvez l'humanité, type Naruto. Mais c'est un peu, si vous voulez, la militarisation ou l'aspect militaire de l'organisation de chaque pays. Et bien sûr, quand il y a l'alliance des ninjas, tout le monde répond à ce même ordre. Les jonin dirigent les shonin, les shonin, oui, et les shonin encadrent d'une certaine manière les genin, qui peuvent combattre, bien sûr.
Et une toute dernière question, je croyais que ça allait être la dernière, mais j'ai une question qui me gratte l'arrière du crâne, comme on dit. C'est que dans Naruto, le rôle des forces spéciales varie grandement dépendant de dans quel village on se trouve. Il y a des endroits où les comme par exemple vous l'avez mentionné, Okono a beaucoup plus d'informations. Il y a des endroits où les forces spéciales se opèrent d'une manière qui répond directement au Kage, où il y a quand même une certaine transparence, alors que à l'intérieur des forces spéciales elles-mêmes dans d'autres villages, il y a carrément comme des divisions secrètes, une police secrète où les forces spéciales sont utilisées pour des missions, pas juste des missions d'espionnage, mais des missions d'assassinat, des missions de sabotage. Donc, expliquez un peu, quel est le fait parallèle peut-être avec le rôle des forces spéciales et, ou des forces comme la CIA, par exemple, ou le Mossad, comme existe dans notre monde, avec les forces spéciales dans Naruto.
Alors, même sur le plan des forces spéciales, on a quand même relativement peu d'infos, c'est un peu le but. Mais on sait déjà que pour Konoha, les forces spéciales ont un rôle particulier, notamment d'espionnage et d'exécution rapide de missions. Donc déjà, ce sont des ninjas qui sont très compétents. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu à l'image de la CIA, du Mossad, ça peut même être la DGSE pour la France, les services de renseignement, etc. Donc on connaît de nombreux ninjas qui sont plutôt forts en renseignement, ou des organisations qui sont plutôt fortes en renseignement, d'autres plutôt fortes en intervention, discrètes toujours, hein. Mais oui, si vous prenez le Sai par exemple, qui remplace Sasuke dans l'équipe 7, au début de Naruto Shippuden, et qui prend part à la 4ème Grande Guerre, Sai provient des forces spéciales, mais il est plus fort en... Enfin, il avait des missions d'attribution qui étaient celles de la reconnaissance. Et d'éclairage, enfin d'éclaireur, pardon, parce que ses compétences en ninjutsu le permettaient. Il créait avec son pinceau des animaux qui lui permettent de survoler des forêts, qui lui permettent aussi de couvrir des distances à des kilomètres. Donc ça déjà, ça dépend. L'organisation ne repose pas tant sur des compétences qui sont prédéfinies, j'ai envie de dire juridiquement. Je reste toujours juriste quand même si je suis fan de Naruto, mais c'est en fonction aussi des besoins du village, sur le plan de la diplomatie secrète, et en fonction surtout des compétences de chaque ninja qui compose les forces spéciales. Ensuite, il y a quand même une particularité où c'est difficile de saisir, de comparer plutôt les forces spéciales entre villages, parce que il y a dans chaque village, enfin, si vous voulez, dans chaque pays, on appelle ça des villages cachés. Kiri est un village caché, mais c'est une nation, si vous voulez. Déjà, essayer de cibler Kiri, ne serait-ce que le village, c'est une paire de manches. Donc, essayer de retrouver ou de connaître l'organisation de votre ennemi, si tant est qu'on soit dans un contexte de guerre entre pays, c'est là aussi extrêmement compliqué. Mais par contre, les forces spéciales, on s'est rendu compte qu'au niveau de la 4e Grande Guerre, ils avaient des missions, certes, qui étaient extrêmement difficiles, mais ils ont pris part aussi à la 4e Grande Guerre, comme tout autre ninja lambda. Donc, sauf circonstances exceptionnelles, on peut trouver dans les forces spéciales un recours à la force qui est tout à fait banal, type intervention de ninja, parce qu'il y a un conflit ouvert, si vous voulez. C'est un peu ça.
Merci beaucoup, Dorian, pour votre éclairage. Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation encore une fois et d'avoir élaboré sur la 4e Grande Guerre de Naruto. Je suis sûr que notre public en est, plus éduqué et plus éclairé par rapport à ça. Bonne soirée et merci beaucoup, Dorian.